Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin la ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche, Frédéric Vidal.
Bonjour Frédéric Vidal, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Tout d'abord, c'est quoi l'islamo-gauchisme pour vous ?
Écoutez, je me suis exprimée sur ce sujet longuement dans le JDD. Voilà, la société est traversée par des radicalités. Je crois que c'est important de le savoir. Et c'est important que la recherche retrouve toute la place qui doit être la sienne. Moi, je suis universitaire. Je défendrai toujours la liberté de la recherche, toujours la liberté académique. Et en ce moment, toujours les étudiants, puisque c'est eux qui subissent le plus cette crise.
Mais alors, est-ce que ça gangrène l'université ou est-ce que c'est très minoritaire, comme vous le dites vous-même, hier dans le JDD, on ne comprend plus trop. Est-ce que c'était pas... Est-ce que vos mots ont dépassé votre pensée ?
Je demande, comme j'en ai des dizaines par an, avoir un état des lieux de la recherche sur ces différentes radicalités dans les universités. Et c'est ce que j'attends. Et voilà, je crois que cette polémique pour 12 secondes sur 22 minutes d'interview dans lesquelles je parle pendant plus de 10 minutes des étudiants et plus de 10 minutes de la recherche, ça montre en fait la réalité de ce que je fais tous les jours. C'est-à-dire que je me consacre essentiellement en ce moment aux étudiants et
on
au soutien
va y venir,
de la recherche.
Mais c'est important parce qu'en même temps, ça montre aussi une fracture au sein du gouvernement. Vous êtes soutenu par Gérald Darmanin, vous êtes soutenu par Jean-Michel Blanquer, beaucoup moins par Gabriel Attal hier qui était au grand jury et qui parle, lui, de faits isolés, extrêmement marginaux. Donc vous nous dites que vous allez mener cette enquête, ce bilan. Alors ça sera pour quand, ce bilan ? Est-ce que vous le rendrez public ?
Bah, écoutez, les choses sont en train de s'organiser. Et bien sûr, il n'y a aucune raison de ne pas dire quel est l'état des lieux d'une recherche en France. État des lieux demandé par la ministre de la Recherche. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment une polémique et je crois que c'est surtout ça qui peut agacer Gabriel Attal. Il sait, il voit que chaque jour, je travaille, tout le gouvernement travaille sur la question des étudiants. Et c'est là-dessus que nous continuons à travailler. Vendredi, on était à Bordeaux avec le Premier ministre pour la question des stages. Dans les semaines qui viennent, c'est 900 000 stages qu'il va falloir trouver pour les étudiants. Donc voilà, c'est important.
Mais Frédéric Vidal, c'est vous-même, hier, dans le JDD, j'allais dire, qui remettait une pièce dans cette polémique, en revenant sur ce sujet de l'islamo-gauchisme. Donc, est-ce que ça existe vraiment ? Ou est-ce que vous dites, je regrette un peu, je suis allé un peu trop loin, j'ai eu tort ?
Je dis que je veux un état des lieux sur ce sujet, et voilà, et qu'il n'y a pas lieu de faire polémique quand une ministre de la Recherche demande un état des lieux de la recherche sur un sujet.
Donc vous n'allez pas présenter votre démission comme le réclament 600 chercheurs universitaires dans le monde. Ils estiment que
si
vous
mélangez... Si j'avais présenté ma démission chaque fois que j'ai ajouté 25 milliards d'euros pour financer la recherche, chaque fois que j'ai fait en sorte que les étudiants arrêtent d'être tirés au sort pour entrer à l'université, j'aurais démissionné une bonne dizaine de fois depuis mon entrée au gouvernement.
Mais alors, ça sera pour quand, ce rapport ? Comme ça, à ce moment-là, certainement que la polémique sera close, mais c'est pour quand ?
Ben écoutez, place au travail... pour ce rapport, je ne peux pas vous donner ça à l'avant, je vais le demander dans les prochains mois.
Au CNRS ou à l'Inspection Générale de l'Enseignement Supérieur ?
À l'Inspection Générale, alors l'Inspection Générale, c'est vraiment
Parce que le CNRS dit on n'est pas forcément compétent, on est chercheur, on ne va pas enquêter sur nos collègues. Enfin, vous comprenez, c'est comme un ministre qui pourrait enquêter sur un autre
ministre.
Écoutez,
le CNRS vient de me rendre une enquête sur la place des sciences humaines et sociales la recherche en sciences humaines et sociales en période de Covid. Voilà. Le CNRS, l'INED, m'a rendu un rapport au mois de novembre sur les violences sexistes et sexuelles au sein de l'enseignement supérieur. Comme je vous le dis, des enquêtes, il y en a en permanence. Ça s'appelle une enquête au sens sociologique du terme, un état des lieux. Et aujourd'hui, ce qui me préoccupe plus que tout, et ce sur quoi je travaille plus que tout, c'est la question des étudiants.
Mais vous comprenez aussi que les Républicains qui demandent inlassablement une mission d'information sur ce sujet à l'Assemblée, c'est difficile de leur refuser désormais. Vous êtes d'accord avec cela ?
Écoutez, une fois de plus, la question n'est pas de mettre de la politique dans ce sujet, la question est de remettre de la rationalité. Personne ne sait de quoi on parle. Donc je demande un état des lieux de la recherche sur ce sujet, et c'est tout. Et une fois de plus, croyez-moi, même si ça a occupé beaucoup de rédactions, beaucoup de journalistes, si ça a déchaîné beaucoup de violences, ça n'est vraiment ni ma priorité, ni celle du gouvernement.
Est-ce que vous présentez des excuses ce matin aux chercheurs qui se sont sentis blessés ?
Alors je l'ai dit, il y avait vraiment aucun... aucun souhait de ma part de blesser qui que ce soit, mais je crois qu'une fois de plus, hein, c'est le principe d'une polémique. C'est on prend 12 secondes d'interview, on prend un mot, et puis ensuite...
C'est l'occasion soit à ce que vous leur dites, je suis désolé.
Oui, oui, mais je l'ai dit hier dans le JDD.
Pas clairement. Est-ce que vous leur
absolument.
Dites...
Absolument.
Ah, si, donc vous le répétez ce matin,
oui,
je suis
bien
désolé.
Sûr, bien sûr. Mmh. Mon objectif, une fois de plus, en tant qu'universitaire, c'est toujours de préserver la qualité de la recherche, la possibilité de faire de la recherche comme on le souhaite, la liberté académique.
Vous êtes certaine d'avoir toujours aujourd'hui le soutien du président de la République pour continuer à exercer votre mission?
Écoutez, comme je vous le dis, hein, l'objet majeur qui nous préoccupe et sur lequel on travaille journellement avec le Premier ministre, avec le président de la République, c'est comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette crise et comment est-ce qu'on fait pour que les étudiants puissent sortir de cette crise en n'étant pas... désespéré. Et je crois que c'est vraiment l'actualité de tous les jours depuis maintenant de nombreux mois.
Justement, certains étudiants ont découvert votre nom, Frédéric Vidal, à l'occasion de cette polémique. Certains y ont d'ailleurs vu une manœuvre de diversion par rapport à ce qui est la préoccupation du moment. Vous avez dit le malaise étudiant. Malaise étudiant qui se traduit par une détresse psychologique notamment. Vous avez mis en place des chèques psy depuis le 1er février dernier. Chaque étudiant peut bénéficier d'un chèque. Combien ont été demandés, ont été distribués à ce jour?
La première semaine, ça a concerné 1200 étudiants, 2000 étudiants la semaine suivante et 2000 étudiants la troisième semaine de février. C'est plus de 840 psychologues de ville qui se sont engagés à notre côté. L'idée, c'est vraiment d'être inscrit dans un parcours de soins. C'est un chèque virtuel, hein. C'est la prise en charge dans un parcours de soins d'une détresse psychologique. Et le premier travail, c'est de faire en sorte que les étudiants expriment cette détresse. Chaque fois que je suis sur le terrain, auprès d'eux, et croyez-moi, ils sont très nombreux à me connaître en réalité, ils me disent que la difficulté, c'est de dire qu'on va mal quand on a 20 ans. Ce sont des jeunes qui sont extrêmement responsables, qui voient bien que nous devons affronter ensemble quelque chose de très difficile, qui n'osent pas se plaindre parce qu'ils se disent qu'il doit y avoir plus malheureux que moi, et des gens pour qui c'est plus compliqué.
Pour certains, déprimés, ils vivent une forme de dépression.
C'est pour ça que c'est un parcours de soins.
2000 par semaine, vous dites, 2000 demandes par semaine depuis le début du mois de février.
C'est ça, et évidemment, nous sommes
donc plus de 5000
mis
au total,
en place pour pouvoir répondre à ces demandes. C'est très important parce que, évidemment, la reprise des cours a été un facteur essentiel pour retrouver le moral, si je puis dire.
Mais alors, cette reprise des cours, justement, vous avez annoncé le retour en présentiel à raison d'une journée par semaine par étudiant. Est-ce que c'est le cas dans toutes les facs aujourd'hui? On dit que c'est plus compliqué à mettre en place sur le terrain.
Non, en réalité, moi, les retours que j'ai de l'ensemble des établissements, c'est que tous les établissements sont en capacité de réaccueillir des étudiants en présentiel. Plus de 75% ont mis en place les nouveaux emplois du temps. Il y en a qui sont en congé, hein, donc vous savez que les calendriers universitaires sont glissants, donc tout le monde n'est pas dans le même état au même moment. Ce que l'on observe, c'est que sur les étudiants, c'est un peu plus de 90% des étudiants à qui on a proposé ces nouveaux emplois du temps, il y en a 60% qui reviennent, 40% qui restent en distanciel, pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils ont peur de contaminer des gens autour d'eux, soit parce qu'ils ont trouvé un équilibre, soit parce qu'ils ont des problèmes de transport, et donc je travaille avec les régions...
Parce que d'ici la fin du mois, vous voulez dire en fait toutes les facs l'auront mis en place,
oui,
présentiel.
Oui, absolument.
Ça c'est
sûr.
Tout
le monde aura repris et ce sera dans toutes les. Alors non seulement dans toutes les universités, mais j'y tiens aussi dans toutes les disciplines, parce que on a des universités dans lesquelles la reprise peut se faire de manière différente en fonction des facultés.
Est-ce que vous allez mettre en place ces tests salivaires? Olivier Véran les avait annoncés. Est-ce qu'ils ont déjà été lancés dans les facultés?
Alors dans les facultés, en réalité, on a tout un système de prise en charge qui pour le moment fonctionne sur la base plutôt de PCR et de prélèvements. Donc avec une chaîne qui permet d'avoir les résultats soit très rapidement, avec une technique un peu particulière qu'on appelle PCR lampe. C'est des résultats en une heure.
Mais sur les tests, c'est-à-dire, c'est Olivier Véran qui avait annoncé ça, aussi à l'université. Est-ce que ce sera le cas dans les jours à venir?
Ce sera déployé dès que ce sera disponible. La priorité est à l'école, parce qu'évidemment, pour les enfants petits, C'est un peu compliqué de faire des prélèvements rhinopharyngés plus que sur des jeunes adultes. Mais bien sûr, tout ce que nous espérons, c'est d'avoir justement ce déploiement de tests salivaires et les plus simples possibles pour qu'on puisse même aller vers des autotests dès que ce sera disponible.
Frédéric Vidal, quand viendra la vaccination massive ? Est-ce que vous, personnellement, vous souhaitez que les étudiants soient prioritaires plutôt que les 30-40 ans, par exemple, pour qu'ils puissent retourner sur les bancs de la fac ?
Mais là encore, je crois que ça dépend de ce qu'on aura en termes de résultats de cette vaccination. Aujourd'hui, on sait que la vaccination, c'est une protection individuelle. Ça évite que l'on tombe malade soi-même. On ne connaît pas encore l'impact de la vaccination sur la transmission d'un individu à l'autre. Et donc, en fonction de cette réponse, il faudra qu'on regarde les choses.
Oui, mais est-ce que vous voulez que ce soit prioritaire ? Est-ce que vous dites, voilà, moi, en tant que ministre, je m'engage ? C'est vrai que parfois, ils ne ressentent pas votre engagement, les étudiants.
Non,
ils
ne
sentent
vrai.
Pas leur côté, ils ne sentent pas l'empathie.
Non, c'est pas vrai.
C'est ce qui remonte des messages qui
bien
nous sont
sûr,
envoyés.
Bien sûr, mais j'entends bien ce qui remonte des messages, mais je vois aussi la réalité de terrain. Je suis entre une et deux fois par semaine sur le terrain avec des étudiants, avec eux, je leur parle. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'identifie un à un les sujets, les problèmes sur lesquels il faut qu'on avance. Cette semaine-là, cet après-midi, je vois les associations étudiantes, on va prendre en charge la question de la précarité menstruelle. C'est, selon une enquête de la FAGE, plus d'une étudiante sur trois qui a des difficultés. Eh bien, moi, je crois que c'est une question de dignité. Et ça, c'est les remontées de terrain. C'est quand, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, justement, quand la confiance s'est installée, alors on me dit, oui, mais vous savez, madame, on a aussi un problème avec ça. Et c'est difficile d'en parler. Il faut du temps et ça ne se fait pas devant des caméras de parler de ça.
Oui, mais ils ont un problème aussi de moyens financiers. Alors, ils se disent, pourquoi notre ministre, elle se bat pas pour qu'on ait le RSA jeune, au moins le temps de la crise ?
Eh bien, là encore, ceux qui sont réellement sur le terrain ont la réponse à cette question. Avoir doublé les aides, faire en sorte qu'aujourd'hui, en un clic sur Internet, on puisse obtenir immédiatement 500 euros le temps que le dossier soit examiné pour avoir jusqu'à 5000 euros par an d'aide ponctuelle individuelle. C'est exactement pour répondre à cette problématique et ça fonctionne. Et la seule chose que je tiens à dire à l'ensemble de vos auditeurs, c'est que ça concerne tous les étudiants. Les boursiers, les non-boursiers, les nationaux, les internationaux, tous les étudiants ont droit instantanément, si je puis dire, ou sous 48 heures, à une aide de 500 euros, puis éventuellement, on peut aller jusqu'à 5 000 euros par an. C'est bien plus que le RSA en réalité.
Est-ce que Mme Delacoste, cette année en pointillé douloureuse pour 500 étudiants, certains demandent une validation automatique du premier semestre ou à défaut un contrôle continu à la place des examens rapidement. Est-ce que vous allez le
jamais une validation automatique raison. Et je crois qu'ils le comprennent évidemment D'accord. eux-mêmes. Ça veut dire que cette année, on n'a pas donné de diplôme parce que donner un diplôme automatiquement ou ne pas en donner, c'est la même chose.
Et je crois que là encore, bien sûr
que non, bien sûr que non.
C'est
le contrôle continu, oui, bien sûr. Et ça, c'est mis en place dans certains établissements. Une validation automatique, bien sûr que non.
Mais d'accord. Mais cette polémique, vous le reconnaissez, elle a parasité votre message.
Je crois que c'est le rôle d'une polémique de parasiter les messages. Et